appelle de Boudjitsata. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, je suis André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Okapi. Le groupe Orgaman vient de fermer sa filière d'importation des vivres frais depuis ce vendredi 13 juin 2014. Cette entreprise, comptée parmi les premiers importateurs des vivres frais, a décidé de poursuivre avec d'autres filières agroalimentaires en République démocratique du Congo. Cette affaire relance donc les débats sur la politique d'approvisionnement du marché national pour stabiliser les prix des produits de première nécessité, principalement les chinchards, le poulet et le poisson frais, pour ne citer que cela. Comment vous commentez alors cette actualité? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 63 15. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Jean-Claude Nsiala est à la technique. Noëlla Louzitou réalise cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. A toutes et à tous, bienvenue.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons en ligne Jean-Louis Bissanguillois, économiste et conseiller au ministère de l'économie. Bonjour, monsieur Jean-Louis.
Allô?
Allô, Jean-Louis, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour, Radio Okapi.
Alors, je le disais tantôt, le groupe Orgaman vient de fermer sa filière d'importation des vivres frais depuis ce vendredi 13 juin 2014. Tout de même, cette affaire relance les débats sur la politique d'approvisionnement du marché national pour stabiliser le prix des produits de première nécessité, principalement les chinchards, le poulet et les poissons frais. Alors, vous êtes conseiller et aussi, disons, conseiller au ministère de l'économie et en même temps économiste. Spécialiste. Voilà, est-ce que vous pouvez quand même commenter un tout petit peu cette actualité? Quelles sont les conséquences qui peuvent s'en suivre?
Oui, monsieur Gier, merci pour l'invitation. D'emblée, je peux vous dire que le marché de produits alimentaires importés n'est pas exclusivement entre les mains d'un seul opérateur économique comme il y a quelques années. Orgaman a jouit d'une situation monopole de fait pendant plusieurs années. Il s'est fait qu'il y a de nouvelles entreprises qui se sont enregistrées dans ce secteur et aujourd'hui nous comptons près de 10 entreprises et donc le jeu de la concurrence joue. Hein. Et donc on peut se dire que si un acteur futur majeur peut ne pas être dans les systèmes ou dans les circuits, cela ne va pas nécessairement perturber fortement le marché, surtout que le jeu de la concurrence joue.
Mais alors,
qu'un État sérieux ne peut pas bâtir sa politique économique sur l'exportation de vivres alimentaires. Donc, nous, en tant que ministère de l'économie, dans notre volet, justement chargé pour assurer la position en arrêt.
Voilà, Jean-Louis, on a des petits soucis avec votre ligne, du moins c'est qu'on craignait, toujours ces parasites qui dérangent un peu la communication. Est-ce que vous pouvez pas, si vous êtes, je sais pas si vous êtes en train de rouler, parce que
oui,
là, alors prière de parquet, de rester un peu quelque part, sinon on aura vraiment des petits soucis avec votre ligne.
Voilà.
Voilà, allez-y.
Oui, c'est bon.
Non, en tout cas, pas du tout. Alors, on va continuer les temps pour nous de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent également participer à ces débats. Nous relançons donc cet échange sur la politique d'approvisionnement du marché national par rapport à cette fermeture de volets vivres frais depuis ce vendredi 13 juin 2014. On va rappeler à nos auditeurs nos moyens de contact, c'est les 081 890 6315.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons le premier auditeur qui est en ligne, Eddy est à Lubumbashi. Eddy, bonjour. Merci. Vous avez la parole, Eddy.
Merci beaucoup pour la parole, Monsieur J.R. En tout cas, moi, j'ai eu très mal quand j'ai eu cette information, l'information de la fermeture de Rougamane dans le secteur d'importation de vivres frais. Aujourd'hui, à longueur de journée, on nous parle de l'assainissement du climat des affaires, c'est-à-dire créer des conditions qui vont permettre à ce que les opérateurs économiques viennent nombreux dans notre pays. Alors, nous voulons bien que de nouveaux opérateurs viennent, mais nous voulons aussi que ceux qui étaient là déjà restent. Maintenant, là, j'apprends le conseil dire non, c'est un domaine où Rougamane avait le monopole face à la concurrence. Moi, j'ai eu la chance de suivre personnellement le propriétaire d'Rougamane. C'était toujours sur votre chaîne, dans l'émission Zigzag. À la question de savoir pourquoi ils ont fermé cette filière, j'ai bien suivi, c'est ce qui est sorti de sa propre bouche. Il dit il y a un problème de concurrence déloyale. C'est-à-dire, les Libanais qui ont envahi le marché vendent sans facture. C'est-à-dire, ils ne sont pas vraiment contrôlés. Alors, ils font à ce que les prix soient un peu bas par rapport au prix qu'il fallait employer. Alors, moi, je pense que l'assainissement des climats des affaires, c'est aussi protéger les gens qui veulent vivre, qui veulent évoluer dans notre pays, dans la légalité, en payant les taxes qu'il faut. Parce que quand on vend sans facture, je m'imagine, pour prélever la TVA, c'est problématique, mais aussi pour payer toutes les taxes y afférentes, c'est problématique. Alors moi, j'ai senti une volonté, parce que c'est un sujet belge, c'est un Européen, lui veut évoluer dans la légalité, dans le respect des textes, mais ceux-là qui ont envahi le secteur ne respectent pas et ils ne sont pas contrôlés. C'est la raison que lui a avancé dans l'émission Zigzag. Je l'avais très bien suivi parce que là, il a donné l'historique de Rougamane, de toutes les péripéties qu'il a connues dans la création de cette entreprise-là. Alors moi, je pense que le ministère de l'économie doit plutôt l'entendre pour qu'il dise pourquoi il peut fermer. Et les conséquences sont là, M. Gier. Il y a la hausse des prix. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant un déséquilibre. Il y a baisse d'offres et la demande, elle est en perpétuelle augmentation parce que la population congolaise augmente de 3% par an, mais la population à Kinshasa, elle augmente à plus de 3% parce que beaucoup de Congolais cherchent à aller vivre dans la capitale. Alors, lorsque nous assistons à une augmentation de la demande, mais subitement l'offre baisse, un importateur majeur quitte le secteur. Moi, j'ai suivi sur votre chaîne une maman qui dit que le chaussette qu'elle pouvait acheter à 100 francs, et pour le moment, elle achète ça à 250 francs. Vous imaginez un peu, j'ai bien voulu suivre cette semaine la réunion du gouvernement, la réunion hebdomadaire de chaque lundi, mais j'ai remarqué même que le gouvernement n'a pas relevé qu'il y a eu inflation. Parce que quand il y a augmentation vertigineuse des prix comme ça a été le cas avec la fermeture d'Rougamane, l'inflation devait aussi subir un coup. Mais j'ai été surpris d'apprendre que la situation est sous contrôle alors qu'il y a un emballement des prix dans les domaines des vivres frais.
Voilà, merci beaucoup Eddy. Vous, s'il faudrait interpréter quand même votre intervention, vous signalez que l'économie nationale tient aussi au principe de l'offre et la demande. Et l'on sait qu'en RDC, la demande a souvent été très très forte, surtout en produits de première nécessité. Et quand un importateur quitte les secteurs, c'est là, selon vous, pourrait avoir aussi un impact très très négatif sur les structures des prix ou encore sur les prix de ce produit sur les marchés nationaux. Alors là, ça relance également le débat sur la politique d'approvisionnement du marché national. C'est vrai que hier, Orgaman jouissait de ce monopole d'importation de vivres frais, mais aujourd'hui, il y a la concurrence que vous décriez, parce qu'elle est déloyale, selon les propos de quelques autorités de l'Orgaman, qui ont semblé signaler que, effectivement, cette concurrence n'est pas toujours à son avantage. Merci beaucoup Eddy d'avoir appelé de Lubumbashi. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Et bonjour Gér Lungembo. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Adrien.
Oui, Gér, d'entrée de jeu, je pense que nous devons quand même éviter d'émettre certains jugements de valeur. Je pense que Orgaman est devenu au Congo avec son vouloir et c'est toujours Orgaman qui a décidé de quitter le Congo. Donc, en ce qui concerne, donc le vrai problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que Orgaman aurait souhaité qu'il reste toujours dans cette position-là, donc de garder les monopoles, donc d'importation des vivres frais. Lorsque la législation congolaise a estimé que non, écoutez, ça c'est une pratique quand même archaïque, il faut laisser quand même donc aux autres opérateurs qui peuvent intégrer. C'est ce qui a suscité la colère d'Orgaman de quitter le pays. Moi, je pense que par rapport à ça, Orgaman, c'est presque comme je venais de le dire, ils ont souhaité librement de quitter. Mais moi, je pense que par rapport à tout ça, le gouvernement congolais pourra maintenant tirer attention par rapport à sa politique d'approvisionnement. Parce que ici, nous nous rendons compte que lorsque un seul opérateur quitte, il y a déjà des conséquences qui se font sentir ça et là. Il y a des augmentations vertigineuses des prix, il y a manque de contrôle de la part du gouvernement congolais, c'est ici ou jamais le gouvernement congolais devrait tirer vraiment beaucoup d'attention parce que le fait d'ouvrir le marché à tout le monde, c'est vrai, c'est une mesure que personnellement j'apprécie parce que je ne suis pas de ceux-là qui estiment que pour un seul secteur, qui est le monopole. Non, non, on devrait quand même laisser la chance à tous si on estime qu'il y a une concurrence déloyale. Une concurrence déloyale, GR, c'est une infraction en matière commerciale. Donc, Orgaman devrait saisir les cours des tribunaux pour démontrer les biens fondés de cette concurrence déloyale. Tous les juristes le savent que lorsqu'il y a une concurrence déloyale, donc vous bloquez certains opérateurs à bien évoluer et là, les juridictions commerciales frappent là-dessus. Mais ça ne sert à rien de crier tout simplement, dire que non, il y a une concurrence déloyale à partir du moment où vous n'êtes pas capable de démontrer ça. Et puis deuxièmement, quelqu'un peut appeler à tort que c'est une concurrence déloyale, mais lorsque le spécialiste entre en ligne de compte, se rendre compte que non, ce n'est pas du tout une concurrence déloyale, mais c'est au contraire une concurrence loyale. Parce que même dans nos villes, dans nos provinces, nous voyons certains opérateurs économiques, lorsqu'il y a libération donc, d'un secteur, ils crient à une concurrence déloyale. Donc là, c'est un faux problème. Mais le vrai problème, c'est quoi? Je pense qu'avec le départ d'Orgaman, c'est une matière à réflexion pour notre gouvernement. Le gouvernement congolais doit maintenant analyser sa politique générale en matière d'approvisionnement
du marché national.
Toute matière confondue. Parce que si on ne tire pas attention, nous risquerons toujours de rester dans cette situation. Et plus tard, on vous dira que non, voilà. Parce qu'il y avait eu monopole, on a supprimé les monopoles et rien ne marche. Rentrons encore dans le monopole, ça ne sera pas intéressant pour nous. AGR, mon intervention.
Merci beaucoup. Voilà, cette situation, selon vous, doit interpeller le gouvernement congolais, parce que le fait de libéraliser les secteurs peut avoir des conséquences néfastes, et surtout quand il s'agit de la concurrence déloyale, parce qu'elle est condamnable, et puis il y a des sanctions qui peuvent même s'en suivre. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir appelé des Kananga. On va prendre Claude, qui est à Kinshasa. Claude va garder la ligne. Le temps pour nous de rappeler à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également intervenir dans cette émission en direct en composant les 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
On va repasser de l'autre côté de la ligne avec Jean-Louis Bissangiloa, qui est économiste et conseiller au ministère de l'économie. Monsieur Jean-Louis, vous êtes avec nous?
Oui, monsieur Gilles, je vous remercie.
Voilà, vous avez suivi cette première série des auditeurs, comment vous réagissez?
Oui, je salue Eddy Alubombashi et Adrien Kananga. D'emblée, Eddy a soulevé la problématique de la concurrence déloyale, c'est basant sur les allégations d'Orgaman à une des chaînes de télévision et de radio. Et monsieur, je voulais directement répondre à Eddy pour lui dire que c'est vrai qu'il y a des pratiques parfois de concurrence déloyale, et le ministère de l'économie et commerce, toujours lorsqu'une entreprise se plaint et elle adresse sa correspondance, nous examinons à fond la problématique, la question qui est soulevée, et nous cherchons toujours des solutions. Tenez, il y a quelques jours, il y a quelques mois, l'entreprise Orgaman avait soulevé la question des entrées frauduleuses de cette marchandise à travers nos postes frontaliers. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes descendus sur terrain, le ministre de l'économie a chargé des équipes pour s'en percevoir, tant à Loufou, ici sur le budget partout, à l'est du pays, à Kasumba-Lessa, ainsi de suite, au Katanga, et nous avons quand même eu à maîtriser tant soit peu l'afflux des différentes marchandises qui entrent et qui perturbent le marché. Quant à la concurrence qui existe entre les Libanais d'un côté, moi je ne veux pas parler de nationalité ici, de tous les acteurs aujourd'hui, parce que le secteur, comme je venais de vous dire, des denrées alimentaires, il jouissait d'un monopole de fait, du fait que Orgaman était pratiquement le seul maître sur terrain, il s'est fait qu'il y a de nouvelles entreprises qui sont entrées, et le jeu de la concurrence a fait que, parfois, Orgaman n'a pas pu rationaliser ses charges. Vous comprenez, hein? Mais je peux vous dire, je pense que vous avez contacté aussi un agent de l'Orgaman qui devait être peut-être à cette émission pour que nous puissions discuter. Il appartenait à Orgaman d'adresser une correspondance au ministère de l'économie ou de se plaindre à qui veut pour justifier la problématique de la concurrence déloyale. C'est une question qui a été analysée minutieusement au niveau du cabinet, tant au niveau interne qu'au niveau externe, parce que nous avions même diligenté une étude dont le fameux rapport Mena Finance, qui a démontré comment tous les acteurs qui sont dans la chaîne d'approvisionnement des produits de première nécessité, comment ils se comportent, où est-ce qu'ils tirent leurs produits, comment ces produits nous parviennent ici, les circuits de distribution. L'analyse a révélé que il y a beaucoup à dire, nous l'avons dit dans d'autres émissions, que le circuit n'était pas sain de distribution. Il s'est fait que dans l'entretemps, certaines entreprises comme Congo Futur, comme Sokin et les autres, qui ont des charges moins importantes qu'Orgaman, ils sont fait que ces entreprises sont devenues de plus en plus compétitives plutôt. Ces entreprises devenant compétitives, Orgaman n'a pas su rationaliser ses charges. Et donc, la question que notre ami Adrien soulève, et là je le remercie et le félicite pour que la politique d'approvisionnement intérieur, oui, nous réfléchissons sur la politique d'approvisionnement intérieur. Monsieur Adrien doit comprendre que cette question, c'est une question transversale. Lorsqu'on parle de l'offre alimentaire, c'est une question qui touche à l'agriculture, qui touche aux finances, qui touche aux infrastructures, ainsi de suite. Pour répondre à cette question, nous avons déjà maîtrisé les circuits internes avec tous ces opérateurs qui sont du reste contrôlés, chers amis, parce qu'on croit que les Libanais sont là pour engraisser les autorités. Comme Eddy venait de dire, c'est basant sur la réalité d'un débatteur d'Orgamal qui disait qu'il n'y a pas de contrôle, tout ça pour les Libanais, c'est faux et archi faux. Chaque année, le ministère diligente des contrôles économiques et il y a des pénalités s'il y en a, notamment en ce qui concerne la pratique de prise illicite, en ce qui concerne les pratiques de concurrence déloyale, et qu'il s'agisse des Libanais, qu'il s'agisse des CGN, qu'il s'agisse des Congolais, tout se passe au contrôle économique. Et je veux dire, pour me résumer, que la hausse de prix actuelle, qui est une hausse d'ailleurs conjoncturelle, de hausse de est justifiée par la fermeture d'Orgamal, ce serait faire une lecture vraiment biaisée, parce que si on analyse aujourd'hui quelle est la part du marché d'Orgamal, la part du marché d'Orgamal n'est pas de 40 ou 50%. Et alors, si c'est un grand acteur, on a une image d'Orgamal d'il y a 5 ans, d'il y a 20 ans,
Oui, Jean-Louis, si vous nous permettez-nous quand même de vous couper un peu la parole, vous allez poursuivre juste après, mais on sait quand même, il faudrait qu'on le rappelle, que Orgamal fut installé à RDC depuis 1931, et depuis on sait que c'est cette poule qui hier pondait abondamment des œufs d'or grâce auxquels les populations congolaises d'est à l'ouest et du nord au sud pouvaient se nourrir en vivant frais. Partir comme ça du coup brutalement, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas d'accord que ça pourrait avoir un impact aussi négatif et énorme sur les ménages.
JR, s'il vous plaît, je dis ceci. Nous sommes État, Orgamal, c'est une entreprise privée. Il n'appartient pas à l'État d'entrer dans la gestion d'une entreprise privée. Quand elle fait des bénéfices, tant mieux, l'État se retrouve. C'est des pertes. L'État aussi se retrouve dans ces pertes-là. Quand elle ferme, il n'appartient pas à l'État congolais de dire voilà une entreprise privée. Je vous ai dit d'abord sur le problème de la gestion interne d'Orgamal face aujourd'hui à la concurrence saine sur le marché. Il se fait que la structure de charge d'Orgamal ne parvient pas à répondre. D'abord, Orgamal, c'est un groupe. On doit savoir qu'il y a plusieurs filiales, qu'il y a plusieurs remembrements. Il y a quelques jours exactement, je venais de recevoir la structure de prix d'Orgamal qui a importé une cargaison de porc, des cotifs de porc, et qui sont arrivés ici. C'est la structure de prix de ce mois d'avril. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Orgamal peut fermer sa filière de vivre fin, mais allez-y à l'économie du peuple. L'économie du peuple a toujours vendu au nom d'Orgamal tous ces produits. Mais lorsque vous entrez chez Okonoma du peuple, vous allez vous rendre compte qu'il y a des vivres. Au moment où je vous parle, toutes les installations d'Okonoma du peuple disséminées dans la ville de Kinshasa, il y a des vivres. Mais qui vous dit que Orgamal n'est pas tout simplement, il a fermé officiellement et qu'il évoluerait ailleurs? Nous avons fustigé la problématique du commerce triangulaire aujourd'hui. Les opérateurs économiques, avec leur intégration à la fois verticale et horizontale, ils développent des entreprises et qui changent aujourd'hui de nom, demain ça change, ainsi de suite. Et nous, je voulais dire à nos auditeurs, en tant qu'économie nationale, lorsqu'un opérateur économique est en difficulté, il adresse sa note au ministère et à l'économie dans ses attributions, on l'accompagne sur le plan fiscal, sur le plan économique, tout ça. On se limite à ce niveau-là.
Alors, la question, Jean-Louis, pour ne pas vous couper la parole, a été soulevée même lors de débats au niveau du Parlement, avec cette question orale qui a été proposée par l'honorable Pico Mwepu sur la politique d'approvisionnement. Je crois que cette affaire relance à nouveau les débats sur la politique d'approvisionnement du marché national. Comment ça se passe concrètement au niveau du gouvernement congolais?
Hier, nous avons une économie qui est avertie, on le sait. Aujourd'hui, une bonne politique d'approvisionnement dans un pays qui se respecte, c'est celle qui a pour fondement la production locale, la production domestique. Mais, mon ami, vous savez, le produit agricole, par exemple, sont inexorablement liés aux droits de l'homme, c'est-à-dire aux conditions éco-climatiques. Aujourd'hui, on peut planter le maïs aujourd'hui, il faut attendre après 3 mois pour récolter, ainsi de suite, l'infrastructure, ainsi de suite. D'abord, le Congo a amorcé le processus de la fin de la dépendance alimentaire, mettant en place un programme agricole qui s'articule sur plusieurs axes. Vous avez le programme RR, la viabilisation
les infrastructures, les routes, relier les zones de production aux centres de consommation. On le fait. On a une politique aujourd'hui.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de notre invité. Voilà, on va nous aider à récupérer, mais il est temps de repasser de l'autre côté des standards avec Claude qui est à Kinshasa et Tarsis à Badolité. Claude, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez bonjour la parole, Claude. Votre point de vue.
Bon, mon point de vue est purement technique. Je voulais dire, j'ai quelques conseils à donner seulement au gouvernement congolais. Je remercie Ogaman de nous avoir nourris pendant plusieurs années avec ses vivres frais. Il a décidé de fermer, ça va. Mais une idée me revient en tête. L'année passée, je crois que Madame Zouziambombo avait demandé qu'avec les subventions de l'État, capable de faire aussi la même commande et de réduire les cartons de Saint-Charles qui coûtaient ici à des prix exorbitants, de les réduire à moins de 30 dollars. Vous savez ce qui s'est passé après. Donc, c'est toujours ce foi entre nous les Congolais. Une mauvaise politique de gérance, ce qui n'est pas bon. Maintenant, pour conseiller notre gouvernement, je voulais dire que cette situation nous serve de leçon, comme tout le monde l'a dit, comme Adrien l'a dit, dans notre politique d'approvisionnement, que cette situation nous serve de leçon. Hier, vous savez que la RDC a 145 territoires, à peu près 600 communes. Si jamais, dans chaque territoire, on construisait 10 étangs. Chaque territoire se fait 10 étangs. Et ils mettent élèvent les poissons dedans. Ça nous fera combien? 145 plus 600, 750, à peu près, fois 10, 7500. Est-ce que nous n'allons pas nourrir la République? Et fusionner, par exemple, cette politique de choses, de pisciculture, là, avec Daipen, et qu'on installe aussi Daipen dans presque chaque territoire. Daipen fait tout. Il fait les porcs, il fait les œufs, les poussins, les poulets, tout ça. Les déchets des porcs et des poussins servent d'une très bonne nourriture aux poissons. Leur fiente aussi. Et voilà comment on peut parvenir à développer le pays. En plus de ça, ces écoles spécialisées dans ces arts d'histoire, dans ces arts de pisciculture, il n'y en a presque pas. J'ai suivi sur votre radio la semaine passée un professeur spécialiste dans ce domaine-là. Je crois que vous avez suivi.
Oui.
Avec son collègue qui est à vers le Kivu là-bas, qui a fait les Sambaza et consorts. Mais c'est ah, pour qui la République a dépensé des milliers d'argent.
Oui,
pourquoi
oui,
est-ce
oui,
qu'on
ne oui,
peut
oui,
pas les valoriser
oui,
à ce
oui,
moment,
Claude,
leur donner la possibilité d'aller fouiller dans tous les lacs, de faire des études profondes dans les rivières, trouver où on produit du bon poisson, les poissons de bonne qualité. Au lieu de dépenser tout le temps les devises pour commander les chinchards, les croupions déjà pourris avec les formoles. Ce n'est pas bon. Nous sommes capables de produire nous-mêmes ici sur place et manger bio.
Voilà, merci beaucoup,
Monsieur
Claude.
Voilà tout ce que je voulais vous dire, mon frère.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Claude, parce que là, on pose un problème de fond sur la politique d'approvisionnement du marché national. Notre invité tout à l'heure a parlé de la production locale. Je crois que vous êtes revenu sur ça. Vous avez même cité Madame Zouziambombo, qui, en fait, a rejoint aujourd'hui les nombres d'importateurs de vivres frais en RDC. Et d'ailleurs, parce que vous l'avez cité, elle a rappelé, en fait, elle nous a rejoint. Elle pourrait intervenir d'un moment à l'autre. Il est temps d'abord d'accorder la parole à Tarsis qui est à Lubumbashi. Tarsis, bonjour, pardon, à Badolité.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre point de vue, Tarsis.
Ok. Je pense que les amis qui ont intervenu ont parlé de la politique du gouvernement. Tout tourne. L'État congolais doit prendre ses responsabilités dans la politique d'approvisionnement du marché afin d'éviter cette hausse des prix sur les marchés. Un fournisseur jette l'éponge comme le cas de Orgaman. Vous savez, ici à Guadeloupe, les gens ne consomment pas les vivres frais. Il y a des viandes qui traînent, il y a des poissons, il y a tout. Pourquoi est-ce que la politique du gouvernement des réserves,
stratégie,
comme dans tout autre pays qui se respecte, n'est toujours pas ou soit n'est pas très motivée? Moi, la question que je me pose est de savoir, est-ce que notre gouvernement songe au moins à avoir des réserves dans tout ce qui est comme production agricole, de façon à ce que quand sur les marchés, X ou Y produits manquent, le gouvernement, dans ce cas, essaie de lancer sur le marché, ou soit d'apporter sur le marché ces biens dont la population a besoin. Quand vous êtes en Corée du Sud, je m'excuse, dans un village où on a été, le gouvernement distribue des semences aux villageois. Il fait accompagner la production, soit de culture, par des ingénieurs agronomes. Et quand il y a cette production, le gouvernement achète à un prix pour permettre à ces villageois de construire des maisons. Et lui, le gouvernement, il constitue des stocks de X ou Y produits. Pourquoi notre gouvernement ne sait pas,
n'a pas cette politique,
ou soit opérer ou soit mettre en place en pratique une stratégie agricole?
Voilà, merci beaucoup Tarsis. Merci beaucoup Tarsis d'avoir appelé des Guadolités, parce que M. Claude, l'intervenant de tout à l'heure, qui a précédé d'ailleurs Tarsis, a cité Mme Zouzian Bombo, qui au fait a rejoint également la liste de nombre d'importateurs vivres frais en RDC. On va lui accorder la parole également. Mme Zouzi, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, mais il s'agit de Mme Zouzian Bombo Alice et non pas Mme Zouzian Bombo.
Voilà, Mme Zouzian Bombo Alice.
Oui.
Voilà, vous nous rejoignez. Voilà, quel est votre point de vue?
Mon point de vue est que, bon, la question qui m'avait été posée était pourquoi est-ce que la plupart des importateurs tendent à fermer boutique et aller ailleurs. Bon, nous pouvons épingler le problème de la TVA. Nous avons une TVA énorme à Kinshasa, enfin en RDC, par rapport au pouvoir d'achat de la population. Alors, ce qui fait que, bon, lorsque les importateurs font venir de la marchandise, la vente ne se fait plus comme avant parce que le pouvoir d'achat de la population étant faible, les personnes n'arrivent plus à s'approvisionner comme avant. Donc, les ventes sont lentes, l'argent stagne et ça pose des difficultés. Il y a également un problème, c'est que le port que nous avons, le port de Matadi, n'est pas intéressant pour les importateurs et les gens préfèrent aller au port de Pointe-Noire qui est plus avantageux pour nous. Alors bon, tout cela, lorsque la marchandise vient de Pointe-Noire et doit arriver à Kinshasa, c'est des tracasseries en plus. On le fait malgré nous, mais c'est tout ça, c'est des tracasseries en plus.
Donc, voilà. Oui, en croyant vos propos à Madame Zouzian Bombo Alice, qu'il y aura pas que Orgaman qui n'a pas pu faire face au fait à ces charges. Il y a d'autres importateurs qui pourraient aussi avoir se retrouver dans la même situation et aussi claquer la porte et ça pourrait causer des conséquences énormes.
Étant nationaux, nous ne pensons pas claquer la porte parce que nous sommes dans notre pays, nous sommes chez nous. Nous espérons que le gouvernement prendra notre problème au sérieux. Parce que nous importons pour les gagnes petits. Nous nous adressons aux gagnes petits, à ceux qui ont un pouvoir d'achat faible. Donc, les taxes qu'ils nous font payer, s'ils pouvaient les répercuter, par exemple, vers ceux qui font le bois ou les pierres précieuses et autres, ça serait une bonne chose. Mais continuer comme ça, ça devient de plus en plus difficile. Oui, c'est vrai, ça devient de plus en plus difficile, mais fermé, bon. On va se battre, mais c'est difficile.
Voilà, donc si je comprends bien votre plaidoyer, tourne autour des allègements fiscaux, parce que vous sentez que il y a plus de charges fiscales qui pèsent sur vous. Hein.
Et puis, les petits revendeurs, il n'y a pas assez de surveillance au niveau des petits revendeurs. Les importateurs, on les surveille, mais les demi-grossistes et les petits revendeurs ne sont pas assez surveillés par l'État. Ils mettent les prix qu'ils veulent. Et lorsque vous allez sur le marché, par exemple aujourd'hui, vous vous rendez compte que les petits revendeurs dans les marchés font du 100% de bénéfices et plus. Donc ils ne respectent pas certaines marges, certaines normes, parce qu'il n'y a pas assez de surveillance à ce niveau-là.
Donc il y a une concurrence déloyale, comme la
concurrence déloyale. Le problème en réalité aujourd'hui en RDC n'est pas au niveau des importateurs, parce que les importateurs respectent les structures de prix. Mais le problème se trouve aussi au niveau des petits revendeurs qui ne sont pas surveillés. C'est pour ça que la vie est chère, c'est pour ça que les gens achètent moins, c'est pour ça que c'est un cercle vicieux tout ça.
Voilà, merci beaucoup Madame Zouzi, mais nous vous gardons encore en ligne le temps de retrouver notre invité, parce que la question sur la concurrence déloyale est revenue par plusieurs fois, les auditeurs, plusieurs auditeurs avant vous l'ont aussi évoqué. Alors Jean-Louis Bissanguilois, vous êtes économiste et conseiller au ministère de l'économie, et surtout vous êtes la personne la mieux indiquée, parce que vous vous occupez de structures des prix. Que répondez-vous aux uns et aux autres?
Oui, Monsieur J.R., je salue Tarsis et Madame Zouzi qui est d'ailleurs, qui vient chaque lundi à nos réunions du comité de suivi des structures de prix des produits de première nécessité. Madame Zouzi a soulevé la question de la TVA, de la fiscalité. Vous devez savoir que cette question est prise en charge et je crois, elle le sait, nous avions milité une note au gouvernement pour essayer d'examiner l'incidence de la TVA dans tout ce qui est produits agricoles, tout ce qui est consommation. Mais quand cela, on devait reconnaître que la TVA aussi est une taxe indirecte, c'est le consommateur final qui paye le prix de la TVA, ce ne sont pas les producteurs comme tel. C'est une parenthèse. À part ça, Madame
Voilà, la ligne n'est plus de qualité. Je ne sais pas, Jean-Louis, on a encore des petits problèmes, des petits soucis avec votre ligne là. Non, c'est toujours un problème. On revient plutôt à Madame Zouzi Mbombo. C'est vrai qu'il y a un problème. Vous avez suivi notre invité, Madame?
Ça provoque la hausse des prix parce que les petits consommateurs payent cela. Oui, les petits consommateurs payent, ils achètent le produit plus cher. Lorsque j'achète mon poisson, par exemple, à 5 dollars, le petit revendeur va l'acheter à 15 dollars.
Voilà, donc là, il y a toujours un lien.
Il y a
un trou sur les prix, il y a un impact sur les prix. Donc,
donc le problème ne vient pas de ceux qui importent. Le problème vient des petits revendeurs et des revendeurs qui sont dans les marchés, qui sont dans les circuits, parce que nous, on est surveillés, mais eux, la surveillance est... Et disons, mitigé. C'est surtout le problème du gouvernorat de la ville. C'est le problème de se pose à ce niveau-là. Il devrait y avoir plus de surveillance à ce niveau-là.
Voilà, nous avons suivi un auditeur qui a évoqué les cas, par exemple, quand il faisait ses analyses, en évoquant le propos de quelques autorités de l'Orgamane, qui, au fait, de qui quand même cette concurrence déloyale, vous l'avez dit, des petits revendeurs ou encore d'autres, parce qu'il y a ajouté à toutes ces taxes font qu'aujourd'hui les prix augmentent.
Il y a un point que j'allais oublier. Il y a également ce point de... il y a certains importateurs qui sont comme dans un cartel et qui cachent les prix, n'est-ce pas?
Ils n'affichent pas leurs prix.
Ils cachent les prix.
Ils cachent,
vous faites venir, vous achetez la marchandise au même endroit, et lorsque la marchandise arrive, nous savons par exemple qu'après le calcul de la structure du prix de revient, nous pouvons vendre notre marchandise, par exemple, la telle fourchette de prix. Mais eux, ils vont vendre... la moitié de la valeur de la marchandise. Par exemple, lorsque je sais que cette marchandise ne peut pas être vendue en dessous de 5 dollars, parce que nous l'avons acheté au même endroit et avec tous les frais, il ne peut pas vendre de 5 dollars. Et vous voyez, certains importateurs vendent à 1 dollar, 2 dollars. Mais ça, c'est au niveau de l'importation. Mais malgré cela, lorsque ça arrive aux petits revendeurs, comme eux ne sont pas surveillés, ils mettent les prix qu'ils veulent et bon, ça monte.
Voilà, donc c'est un problème de protection d'importateurs. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse veiller à ce qu'il y ait réellement la concurrence loyale et non la concurrence déloyale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça décourage quand même certains importateurs. Et le fait que, c'est vrai, on a libéralisé les secteurs, mais quand le secteur n'est toujours pas contrôlé et bien surveillé, ça cause toujours des dégâts. C'est ça, madame?
Oui, c'est vrai.
Voilà, merci beaucoup, madame Zozi Mbombo Alice. Nous prenons Mathieu qui est à Kananga. Mathieu, bonjour.
Oui, merci bien pour la parole, monsieur le journaliste. J'ai prophète Mathieu à partir de Kananga.
Moi, je suis
en train de déplorer la cessation des activités de cette entreprise Orgaman, qui a été installée dans notre pays depuis 1931 par les Belges. Une entreprise qui a beaucoup lutté contre la faim dans notre pays. J'ai essayé de voir clair à ce sujet. On me dira que l'Orgaman fait face à une perte de ses parts de marché à une rentabilité décroissante. Mais, dans d'autres sens, je crois que l'Orgaman est une entreprise privée. Du moment où ses associés estiment que les charges d'exploitation remettent en cause la rentabilité de l'entreprise, il est tout à fait normal qu'ils prennent la décision de cesser en bonne et due forme leurs activités. Contrairement aux ondis, la société avait aussi déploré la fiscalité appliquée dans notre pays. Or, voir le travail de qualité que cette entreprise fournit dans notre pays, l'État aussi devrait l'aider pour faciliter la tâche. Mais c'est déjà tard. D'ailleurs, la société avait voulu avoir un repreneur, faute de ne pas l'avoir. L'entreprise a jugé utile à opter pour une procédure de liquidation. Mais c'est le regret pour la population démunie qui s'approvisionnait à chaque jour et qui passe au vivre frais de cette entreprise. Ce sont elles les premières victimes. Moi, je les regrette, monsieur le messager.
Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir appelé. Je crois que votre inquiétude rejoint exactement les inquiétudes de vos prédécesseurs qui pensent que depuis 1931, Orgaman a pu, au fait, arroser pratiquement tout le pays en y mettant des dépôts, des économats témoins partout à travers le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, les importateurs congolais, certains du moins, auront-ils les moyens de leur politique pour étendre aussi leurs activités à travers le pays et surtout dans cette filière de l'importation des vivres frais? Question mark. Donc, c'est toute une question qui va encore relancer des débats qu'on pourrait suivre dans les jours à venir. Mais nous accordons la parole à Nadin qui est à Kinshasa. Bonjour Nadin.
Bonjour Radio Capi. Je suis Nadin Poutila, comme vous l'avez dit. Je désire intervenir et voir autrement la question, peut-être en rejoignant un peu le point de vue de M. Claude. Moi, je trouve que le retrait de l'Orgaman dans ce secteur n'est pas à négliger, on va prendre dans la légère. Cependant, la question, c'est de savoir est-ce que la survie du peuple congolais doit nécessairement ou toujours rester entre les mains des expatriés ou alors de... Nous devons nécessairement vivre de ces imports-là. Je crois que la question se posera à plusieurs niveaux. Il reste à savoir sur la qualité, beaucoup plus de ce qu'on nous apporte là. Aujourd'hui, nous enregistrons et nous remarquons plusieurs types de maladies dont nous sommes victimes, nous. Nous ne savons pas l'origine exacte. Mais qu'à cela ne tienne, je ne suis pas à ce niveau-là. Je voudrais beaucoup plus marteler sur le programme gouvernemental dans ce secteur précis. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, au Congo, nous pouvons souffrir, manquer à manger ici au Congo où le poisson meurt des vieillesses? Quelqu'un l'a dit, si jamais cette politique-là pouvait s'appliquer, étant dans des territoires, etc., ou alors nous avons le fleuve Congo, nous avons les lacs, nous avons une partie de l'océan, vous le savez, mais est-ce que nous pouvons manquer à manger dans ce pays? Moi, je crois que c'est au gouvernement, il appartient au gouvernement de mettre en place un sérieux programme. Il faut. Nous pouvons faire 3 mois, 4 mois mourir de faim ici dans ce pays, mais je crois qu'il y a un bon programme. À l'espace de 6 mois, le peuple congolais peut manger frais
et vivre vraiment de manière paisible, éviter certaines maladies d'origine, je ne sais pas, formol ou quoi. Nous ne savons pas ces poissons-là qui quittent Belgique ou quel pays. Tout ça arrive ici, ça prend combien de mois? Moi, je crois que notre gouvernement ne doit pas se laisser de temps en temps humilier jusqu'à ce niveau-là. Tout un pays, être ingénué, c'est pas normal. Voilà tout ce que je peux dire. Moi, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut poser les problèmes. Il faut les situer à ce niveau-là.
Voilà, merci.
Je ne pas que de temps en temps, on dit le gouvernement congolais souffre de ceci, de ce côté-là, le gouvernement congolais là-bas, etc. C'est une humiliation du peuple congolais. Nous ne pouvons pas assumer de temps en temps des humiliations pareilles. J'en appelle à la responsabilité de nos dirigeants. Nous leur faisons confiance et nous leur réitérons ces confiances-là. Nous leur demandons cependant de nous prendre en charge parfaitement, gouverner et prévoir. C'est ce que je demande au gouvernement.
Voilà,
nous, Orgoman, partout pas, nous avons besoin de vivre et nous avons ce dont il faut pour que nous, au Congo, nous puissions vivre. Nous avons des forêts.
Voilà, il faut que nous précisions aux Nadiens, parce que il en faut aussi pour d'autres auditeurs qui vont intervenir par après. Orgaman, n'est pas en cessation des paiements. Il n'a pas fermé totalement, donc il n'a fermé qu'une seule filière, la filière d'importation des vivres frais. Il peut évoluer dans d'autres filières, donc agroalimentaires. Merci beaucoup, Nadien, d'avoir appelé de Kinshasa. Jean-René, vous êtes également dans la même ville, province de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gier. Comment vous allez?
Nous allons très très bien. Vous êtes à Kinshasa, dans quelle partie de la capitale?
Affirmatif, je suis vers le métier. Juste, Gier, je suis un peu... Je donne l'information, monsieur le conseil des ministres. C'est une crise. Le gouvernement et son ministère qui est responsable. C'est depuis 1931 que le grand manque vit en RDC. Aujourd'hui,
voilà. Si vous avez un poste récepteur tout autour de vous, à prière de l'éteindre carrément, Jean-René, et si vous êtes dans une maison, vous pourriez également de vous déplacer un tout petit peu, peut-être on verra si la qualité pourrait-elle s'améliorer.
Affirmatif, j'ai changé hier. Alors, juste j'ai une petite information là pour donner au conseil des ministres que c'est depuis 1931 que le gouvernement est acquis à ça, il suit la mer des cieux. J'ai rappelez-vous aussi de SGA, BAP, DAIPEN, où nous en sommes. Monsieur le conseiller, il peut nous aider à faire une politique de suivi pratique, pas les politiques des projets, des découragements, des bailleurs, des fonds qui viennent RDC, pour nous épauler, juste aider aussi le gouvernement de faire un petit bateau de pêche. Mais il y a des Français et des Français. C'est ça juste, monsieur Gilles, pour mon petite intervention. J'ai mal au cœur sur le règlement de ferme.
Oui, mais Jean-René, nous avons tous suivi l'actualité. La réunion de la Troïka, la toute dernière réunion, parle de prix qui sont sous contrôle du gouvernement congolais. Mais entre-temps, sur les marchés, on l'a constaté, et d'ailleurs, quelques indices de l'Institut national de statistiques parlent au fait de légères augmentations. C'est vrai, de quelques variations à la hausse de certains prix des vivres frais. Notre invité ne lie pas à cela, à la fermeture de cette filière de vivres frais par l'Orgaman. Alors donc, c'est comme pour dire qu'effectivement, il y a un flou tout autour de cela, de cette affaire.
Monsieur Gilles, je n'ai pas un petit débat, je m'excuse, mais après mon analyse personnelle, je te donne seulement l'exemple. J'ai ça commencé aussi comme ça pour dire non, j'ai fait faire ça, et après il a fermé. Orgaman connaît bien le peuple congolais. Alors, nous avons l'intérêt dès le début, voilà, changer les dons, fait comme ça. Pas de fermer. Non, il ne faut pas accepter ça. Merci beaucoup pour votre belle parole. Alors, je vous remercie et j'ai bonne chance avec l'idée comme ça.
Merci beaucoup, Jean-René, d'avoir appelé de Kinshasa à 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Jean-Louis Bissanguiloa, économiste et conseiller au ministère de l'économie, vous êtes avec nous. Je crois que la communication s'est améliorée, votre ligne, je crois. Vous êtes avec nous?
Oui, je pense que c'est bon maintenant.
Voilà, c'est bon, on peut encore aller. Vous avez suivi cette série des auditeurs, cette longue série. Comment vous réagissez?
Oui, je voulais tout simplement d'abord dire que le gouvernement de la République prend au sérieux la question la sécurité alimentaire de sa population.
La stratégie dont il est question ici, c'est que nous puissions, d'ailleurs le chef de l'État l'a dit dans son discours, que le pays devienne le grenier agricole. Le potentiel est là, les ressources naturelles sont disponibles, les conditions écoclimatiques permettent à ce que nous puissions réellement être ce grenier. Mais il y a des problèmes qui sont des problèmes structurels, qui ont caractérisé l'économie congolaise pendant des décennies et des décennies, qui font qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de mettre en place, chers amis, la politique de parc agro-industriel. Les parcs agro-industriels vont permettre à ce que notre production agricole puisse augmenter et que nous puissions même, nous, ici, sur une base de projection, être vraiment un grand au niveau de la sous-région. Notre ami de Badouli, il a parlé de l'expérience coréenne, ainsi de suite. Nous sommes à un état ouvert. Même les Coréens sont venus ici pour exposer sur leurs problèmes, mais nous devons penser, nous pensons, parce que l'économie nationale aujourd'hui, à travers le programme de réhabilitation des infrastructures, sans infrastructures, il n'y a plus d'agriculture possible, il n'y a plus de développement. Ce programme des infrastructures est une composante essentielle de la politique agricole. Ce parc agro-industriel, le 2 juillet ici, de cette année, je crois dans les deux semaines qui vont suivre, le président de la République lui-même et le gouvernement ils vont se rendre à Bukangalonzo pour lancer les travaux de parc agro-industriel. C'est sur 80 000 hectares que l'on va produire les denrées destinées à la consommation humaine. La politique de la pêche, ainsi de suite. Lorsque vous arrivez dans le Tanganyika, nous avons des poissons qui meurent de vieille, c'est vrai. Mais le pouvoir public, les entreprises aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons au niveau du ministère de l'économie? Nous exhortons et nous encourageons les opérateurs économiques nationaux, tout comme expatriés, qui sont des importateurs aujourd'hui, de changer de cap, de voir au niveau de du pays, de produire localement. Et le gouvernement va les accompagner. Le Premier ministre a pris un décret pour un décret qui donne des facilités fiscales, des allègements fiscaux au niveau des opérateurs économiques qui se sont inscrits dans le cadre des chaînes de valeur. Voilà comment est-ce que tous ces opérateurs économiques qui veulent toujours importer, ils peuvent changer de direction. Je vous donne un exemple. Il y a une entreprise, Sofimex, qui est étrangère, des capitaux étrangers. Il y a l'abraliement. Ils ont écrit au gouvernement, le ministère de l'économie les a accompagnés, le ministère des Finances les a accompagnés, Sofimex avec Congo Oil. Ils ont bénéficié des facilités et ils sont en train de produire dans le Bas-Congo à Boma, l'huile de palme, mais dans la logique de la chaîne de filière, de la chaîne de valeur. Voilà comment le gouvernement, avec les moyens de bord, est en train. Vous devez savoir que nous avons un budget qui est faible, mais avec les moyens de bord, il pose des actes concrets qui auront des répercussions à moyen et long terme. Le problème de la bouffe, le problème de l'alimentation, lorsqu'on la réfléchit seulement à court terme, Orgaman a fermé donc, et que qu'on ne pouvait pas faire une étude prospective, une étude à moyen et long terme, alors nous allons dire des choses qui ne vont pas tenir compte. Madame Sunzouzi a parlé de petits revendeurs. C'est vrai, si sur le plan de l'alimentation, il est reconnu au ministère de l'économie de reculer au niveau des importateurs, mais il est reconnu à la province de reculer au niveau des détaillants et du commerçant. Au niveau des importateurs.
Allô? Voilà, on a encore des petits soucis avec Jean-Louis Bissagilois, qu'on pourrait récupérer d'ailleurs pour la conclusion de cette émission, mais tout en rappelant à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre également en composant les 081-890-63-15 pour leur participation en direct. Et ils ont également la possibilité de poster leurs commentaires sur notre page Facebook.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique.
13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Le débat est à nouveau relancé sur la politique d'approvisionnement du marché national autour des vivres frais. Amoury, vous êtes à Kamina, Papi à Béni. Amoury, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi ainsi qu'à tous les invités du jour.
Vous avez la parole, Amoury.
Merci beaucoup. Moi, je voudrais m'atteler sur les problèmes d'approvisionnement des produits agricoles. Je pense que beaucoup des intervenants ils ont parlé sur ça, ainsi que moi, je vais aussi m'atteler sur ça, parce que je vois que nous exploitons donc même le maïs ici, dont la farine de maïs, nous exploitons de la Zambie. Donc, il y a un pays frontalier de chez nous. Mais vous verrez qu'ici chez nous, nous avions beaucoup de savants, nous avions beaucoup de parties où il fallait travailler et produire des maïs, tel que j'ai constaté à l'est du pays, d'autres pays. Il y a la production de maïs intense. Et c'est le transport qui cause. Et ce transport-là est dit parce que le gouvernement savent bien que nous allons toujours commencer quoi à exploiter.
À importer plutôt.
Mm-hmm. Ils ne veulent pas exploiter, si je sais. Et voilà que moi, j'ai constaté et j'ai suivi l'émission dans le départ de l'Orgoman. Et là, ça va interpeller l'État congolais à proviser, à faire aussi des efforts à ce qu'ils puissent aussi commencer à exploiter.
Donc, si je comprends bien, Amoury, vous voulez que l'État congolais puisse repenser sa politique d'approvisionnement du marché national, et surtout quant aux vivres frais, et aussi revoir, donc encourager ceux qui veulent, en fait, aller dans d'autres filières, hein, de l'agriculture par exemple, pour, en fait, aider le pays à avoir suffisamment de biens, des produits, donc des produits de première nécessité, afin de résoudre quand même ces problèmes quand un grand importateur arrive par exemple à fermer et qu'il n'y ait pas de conséquences directes sur la question d'approvisionnement du marché national. Merci beaucoup à Amoury d'avoir appelé. On va prendre Papi. Papi, vous êtes avec nous?
Oui, JR, bonjour.
Bonjour Papi.
Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que la question qu'il faudrait savoir est celle de comprendre les raisons pour lesquelles cette entreprise vient de suspendre certains de ses services. J'ai bien suivi l'invité qui n'a pas bien voulu donner des raisons, à part celles liées à la concurrence sur le marché auquel l'entreprise a fait face. Mais nous savons, chez nous, au pays, le niveau d'assainissement du climat des affaires. Même ici chez nous à Béni.
Alors papi, je vous proposerai, je ne sais pas si cela ne va pas vous déranger, on va raccorder à nouveau la parole à notre invité. Comme ça, il va donner des raisons, quelques raisons pour vous faire une idée, et puis on reviendra à vous pour vous permettre de continuer avec votre intervention.
Ok, je suis à l'écoute.
Radio Okapi.
Le bulletin d'information, Belinda Bosuma.
Bonjour. Les Congolais morts à cause des élections mal organisées sont déjà très nombreux. Nous n'en voulons pas d'autres pour les prochaines élections. C'est la déclaration de la ZADO contenue dans une lettre ouverte adressée au président de la CENI. Pour cette ONG de défense des droits de l'homme, cette exigence doit devenir un des objectifs de la CENI. Pour le président de la ZADO, je cite, « Si la CENI ne fait pas preuve d'indépendance vis-à-vis du pouvoir de Joseph Kabila, l'abbé Malumalu sera tenu coupable de la mort de tout Congolais qui perdra la vie dans le cadre des contestations liées aux élections. » Fin de citation. L'actualité, c'est aussi la mise en place hier d'une mission parlementaire de pacification dans l'affaire des tueries perpétrées à Mutaroulé, dans le Sud Kivu. C'était à l'issue d'une réunion entre le président de l'Assemblée nationale et les députés du Sud Kivu. D'après le compromis trouvé hier entre les deux parties, cette mission se rendra dans les tout prochains jours à Mutaroulé. Notez que la mise sur pied de cette commission est consécutive à la motion d'information formulée par le député Benjamin Mukulungu il y a près d'une semaine. Il demandait la contribution de l'Assemblée nationale en faveur d'une pacification durable de cette partie du pays. Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, se porte bien, mais il a eu un malaise à ne pas dramatiser. C'est ce qu'affirme son directeur de cabinet, Abbé Théodore Tshilumba. S'agissant de la succession à la tête de son parti en cas d'empêchement avéré, le secrétaire général de l'UDPS ne veut pas entendre parler d'une éventuelle succession, étant donné qu'il n'y a pas vacance à la présidence de son parti. Toutefois, maître Bruno Mavungu précise que le statut de l'UDPS définit clairement la gestion du parti en cas d'un problème. Bruno Mavungu au micro de Jeff Ngoy.
Le dépôt se porte très bien. Son président va aussi bien.
Il semble qu'il serait évacué vers Moncole.
Le président se trouve chez lui.
Que prévoit les statuts en cas d'un empêchement définitif?
Je dois vous dire qu'on ne prépare pas la succession aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un point à l'ordre du jour. Parce que Tien Tshisekedi est bel et bien là. Il est le président de l'UDPS. Et toutefois, le statut n'est pas mouillé à ce sujet parce que on sait que il peut arriver un jour que quelqu'un soit indisponible. Alors, que prévoit le statut en ce moment-là? C'est le président de la Convention démocratique, le président de la commission permanente de la commission électorale et le secrétaire général de manière collégiale dirige la transition jusqu'aux élections.
Fin de ce point d'actualité, merci de l'avoir suivi. Parole aux auditeurs, continue avec Gilles Lungembo. Moi, je vous retrouve demain à partir de 5h, heure de Pokulakas. Au revoir.
Voilà, nous poursuivons parole aux auditeurs avec Papy qui est à Béni. Mais il est temps d'abord de retrouver notre invité, Jean-Louis. Je crois que cette fois-ci, la communication, elle est très fluide et elle est très bonne et ça ne posera plus de problème. Jean-Louis, vous êtes avec nous?
Allô?
Monsieur Jean-Louis, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, là.
Voilà, tout à l'heure, papy, j'aimerais un peu savoir quelles sont les vraies raisons, parce que c'est vrai, on a notamment noté qu'il s'agissait de cas de concurrence déloyale. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, Orgaman, si vraiment vous êtes dans les secrets de Dieu?
Non, JR, je ne suis pas agent de Orgaman. Il appartient à Orgaman de détailler ses raisons, mais c'est que je peux dire que une entreprise née, elle croit, elle grandit, elle atteint la maturité, elle peut mourir. Ne soyons pas nostalgiques, parce qu'Orgaman est ici depuis 1930, ainsi de suite. Il y a des grandes entreprises qui ont existé et qui ont fermé à travers le monde. Vous comprenez? Le vrai problème d'Orgaman en Emo, je vous ai dit cela, ce n'est pas la concurrence déloyale, c'est la rationalisation de ses charges d'exploitation. Maintenant, face à une concurrence avec les nouveaux entrants, bon, Orgaman ne s'est pas mis à jour. Je me limite là. Donc, il ne m'appartient pas, moi, de l'État, du secteur public, de commencer à cogiter sur des raisons d'Orgaman. Ça, c'est un problème simple.
Voilà, il y a un auditeur qui est en ligne, qui voulait se faire une idée sur ces raisons. Alors, papy, vous êtes avec nous? Papy, vous êtes à Béni, vous êtes avec nous, papy?
Oui, si je vous avais posé cette question-là,
oui.
C'est en regardant ce qui se passe ici à Béni. Il y a des entrepreneurs nationaux qui aimeraient investir dans ces domaines, mais il faut voir les modalités étatiques auxquelles
les conditions.
Se conformer. Mm-hmm. En bref, il y a d'abord un problème des taxes de l'État. Hein? Mais seulement, certains préfèrent aller implanter leurs usines dans des pays limitrophes, notamment en Ouganda, ici, à côté de chez nous, et ailleurs dans les pays où le climat des affaires est vraiment favorable. Aujourd'hui, c'est Orgaman, et demain, ça sera une autre entreprise, d'autant plus que l'État ne dispose pas des moyens à mettre en place pour créer une telle entreprise au niveau du pays. J'ai regardé notre pays, nous sommes entourés de combien de lacs ici à l'Est, hein, mais nous consommons plus le poisson importé de l'Ouganda, et qui ne sont même pas de bonne qualité. Pour citer JR, ou donner un cas, je vous donne un exemple ici, les casques bleus de la MONUSCO qui se trouvent ici à Béni, consomment même le poisson, la viande, le pain et autres produits que même au niveau national ici, nous devrions avoir des gens qui pouvaient investir dans ces domaines et permettre à créer de l'emploi pour les Congolais. Mais c'est une autre entreprise qui prend en charge l'approvisionnement en vivres
des casques bleus.
Pour citer JR, les autorités doivent cesser avec les problèmes des commissions pour de nouvelles entreprises afin de favoriser sur le marché au détriment des autres qui ont aidé les Congolais depuis longtemps. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je termine par saluer mes amis du club de l'hôpital de Radio Capici à Beni.
Merci beaucoup, papy. Jean-Louis Bisaguila, c'est vrai que, encore vos propos, vous n'invitez pas au fait la hausse de prix constatée, en tout cas ces derniers temps, à la fermeture de la filière de vivres frais par Ogaman.
Oui, JL. À mon avis, il y a deux explications. C'est une hausse, comme je dis, légère et puis conjoncturelle, qui peut être expliquée par deux événements. D'abord, vous savez que le poisson, ou nécessairement le cuisse de poulet qui est sur le marché, venait de Pointe Noire. Vous comprenez, avec la situation qui a caractérisé une relation avec Congo-Brazzaville, il y a probablement lieu d'imputer la hausse de ce produit spécifique à ce phénomène. Mais qu'à cela ne tienne, déjà, il y a deux entreprises, je ne cite pas leur nom, qui ont déjà pris à leur charge ce produit et les navires venaient d'accoster au port de Matadi. Il n'y a plus de lien possible entre la fermeture de Orgaman et la hausse de certains petits produits qui sont sur le marché. Et cette hausse n'a pas atteint le 6% pour qu'on parle d'une hausse critique. Mais il y a quand même une hausse de certains produits. Je suis consommateur et je ne peux pas nier cette évidence. C'est pourquoi, lorsque vous avez suivi la Troïka stratégique, lorsque le gouvernement dit qu'il a la maîtrise, nous avons analysé l'impact de cette hausse. L'impact est dans les limites tolérables. Vous comprenez? Ce n'est pas une inflation comme on le croit. Et donc, je vous dis que les mesures sont prises déjà ici. Vous allez vous rendre compte de la semaine prochaine ou d'ici la fin de la semaine. Et avec l'arrivée de ce produit, nous allons revenir à la case de départ. Mais je vais parler à notre collègue de Béni, qui m'appelle de Béni. C'est peut-être un problème d'information de nos opérateurs économiques. Nous avons toujours demandé aux opérateurs économiques de s'affilier à des corporations, à la SEC quand on est grand, à la COPEMECO quand on est une PME, dans d'autres corporations. C'est à travers ces corporations que le gouvernement entretient un dialogue avec les opérateurs économiques et ils peuvent avoir des informations quant à ceux. Il y a un problème de taxes. Il existe aujourd'hui un plan d'urgence spécifique pour la situation de l'Est de notre pays. Nous étions, il y a 3 semaines, nous avons reçu le président de la FEC du Nord Kivu, M. Polygabe, de Boutembo. Il est venu dans mon bureau. Il a été même reçu par le ministre de l'Économie, son Excellence M. Jean-Paul Imoyato. On a discuté, il est venu avec sa requête et il a trouvé des solutions. Nous appelons nos amis de l'Est, spécifiquement ceux de Beni Boutembo, qui ont quand même, on peut le dire, parmi tant d'autres Congolais, qui ont l'art du commerce. Ils ont vraiment l'art du commerce. Qui veulent faire des actions concrètes, qui veulent se lancer dans des entreprises, même entrer dans cette filière, qu'ils adressent leur correspondance au ministre de l'Économie et ils verront que ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de discours, c'est un gouvernement des actions.
Voilà,
il y a certains compatriotes qui sont venus et qui croyaient que les compatriotes qui étaient à l'extérieur du pays et qui sont venus, toujours avec la chanson « Le climat des affaires n'est pas bon au Congo, le climat des affaires n'est pas bon au Congo », mais dans l'entretemps, le gouvernement prend une série de mesures pour assainir ce climat des affaires, mais on reste toujours dans l'expectative et on ne veut pas rapprocher les opérateurs. Les opérateurs économiques crédibles de Boutembo, de Beni, de Bounia, de toute cette partie du Kassa oriental, tous les opérateurs économiques crédibles, qu'ils adressent leurs consommateurs avec des projets bancables.
On va terminer le temps de prendre les deux derniers auditeurs et puis on revient à vous pour une conclusion. Freddy, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Oui, vous avez une minute, Freddy.
D'accord, merci beaucoup. J'ai l'impression comme si depuis que nous avons débattu, il y a un peu
quelque chose qui échappe à tout le monde. Parce que dans d'autres cieux, l'économie, même l'histoire pareille, il faut que l'État puisse avoir une société qui peut faire le contrepoids lorsque une société de grande affaires comme Orgaman puisse essayer de fournir encore des choses dans le pays. Et je ne sais pas si dans notre pays, nous avons une société de l'État qui fait en sorte qu'il puisse approvisionner pour qu'il n'y ait plus encore des histoires comme ça. Parce qu'en cas de... quand l'Orgaman essaie de fournir des frais, ça va toujours le percuter. Je ne sais pas si notre économiste là comprend un peu ce qu'il est en train de faire.
Merci, merci beaucoup Freddy. On va encore revenir à notre invité. Jean-Pierre, vous êtes à Kikwit. Bonjour. Jean-Pierre, vous êtes avec nous. Vous êtes déjà en direct, Jean-Pierre.
C'est Jean de Dieu à Kikwit.
Voilà, rapidement, en 45 minutes, en 45 secondes.
Oui, merci pour la parole. Moi, j'ai ceci. Aujourd'hui, nous parlons de Rodaman et demain, ça sera encore une autre entreprise. Ce que nous devons retenir, que nous-mêmes, nous devons assainir notre climat d'affaires. Pourquoi ? Nous devons nous-mêmes établir nos propres entreprises. Nous devons créer de nous-mêmes. Nous avons de nos ressources, nous avons des lacs, nous avons des rivières. Nous devons chercher à approvisionner nos propres provisions nationales au lieu de se mettre de l'extérieur. Parce que demain ou le lendemain...
Ça risque de poser toujours des problèmes. Merci beaucoup Jean-Pierre. Jean-Louis Bissanguiloa, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion ?
Monsieur J.R., en conclusion, je peux dire ceci. Orgaman, c'est une entreprise. Elle a vécu, elle vit, et un jour elle pourra mourir.
Voilà, on a des petits soucis avec Jean-Louis. Dommage, Jean-Louis n'est plus en ligne. Nous rappelons que Jean-Louis Bissanguiloa est économiste et conseiller au ministère de l'économie en charge de suivi de structure des prix. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ces débats. Nous disons merci à Jean-Claude Siala qui est à la technique, aux côtés de Noël Alouzitou qui a réalisé cette émission produite et coordonnée par J.R. Lou Ngembo. On se retrouve demain pour un autre numéro.
Allô? 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 Mais, il ne répond pas?